Voilà, je pense, mais je peux me tromper, que la dernière fois je vous ai parlé de Jude.
Possible.
Oui, et même que tu m'as dit que tu mettrais sur le site... que tu mettrais sur le site un titre, les bombes qu'on trouve dans l'épître de Jude.
Et il y a même une illustration avec une bombe.
Voilà. Alors, je ne vais pas répondre à votre souhait qui aurait probablement été que j'aille un petit peu plus loin avec ce sujet et notamment que j'aborde le sujet de la prédestination. Mais non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes déçus, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, voilà, et je ne le dirai pas aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je vais aborder un autre thème. Un autre thème qui m'a... taquiné depuis plusieurs années, voire depuis le moment où je me suis converti. On va prendre un livre de l'Ancien Testament, et dans ce livre de l'Ancien Testament, on va se rendre compte qu'il y a des parties de ce livre qu'on évite de lire parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. Alors je ne vais pas vous dévoiler quelque chose d'extraordinaire, j'aimerais bien, mais j'en suis pas là. On va parler ce matin des psaumes. Qui n'a pas lu les psaumes ? C'était quand la dernière fois que vous avez lu un psaume ?
Ce matin.
Amen. Moi aussi. Hier. C'était lequel hier ? C'était lequel ?
Psaume
108. D'accord. Les psaumes, c'est un livre qui nous est cher, favori, sur lequel on revient assez fréquemment. Et quand on ne sait pas quoi lire, on remet facilement notre nez à l'intérieur des psaumes. Les psaumes, ce ne sont pas uniquement des écrits. Et vous savez que les écrits ont vraiment de la valeur. On s'accroche à l'écrit. On ne dit pas les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est pas ça qu'on dit ? Non, pas d'un nez, hein. C'est Estelle. Je vais vous parler de deux personnages pour venir aller un petit peu plus loin, voire trois. Estelle, une jeune dame qui est chez nous, elle est ravie. Je suis désolé, je parle pas alsacien. Hein.
Non, je comprends.
Ça, c'est bien, mais je parle pas avec le même accent non plus. Mais Estelle, une jeune dame qui est dans notre église, qui met un mot sur Facebook. Tout le monde connaît Facebook, même en alsacien, même en espagnol, on connaît Facebook. Et elle mentionne toute sa joie parce que enfin, elle a fini la version papier de sa thèse. Vous savez, ces gens préparent une thèse, il leur faut 3 ans, voire 4. Je connais un ami qui en est à ses 7 ans, je ne pensais pas qu'il fallait autant de temps pour sortir une thèse, mais elle montre toute sa joie parce que enfin, après ces 3 années de boulot acharné et beaucoup de recherches dans un domaine tout à fait particulier et bien précis, elle a parlé notamment des plantes carnivores, j'étais là à sa thèse. Elle est contente, elle a un document entre ses mains, fruit de son travail. Aussi, une autre histoire, Stéphane. Stéphane rentre à la maison. Il vient changer de boulot il y a quelques semaines. Il rentre à la maison et il dit, alors, je pense qu'il y en a qui vont reconnaître un peu ce que je suis en train de dire. Stéphane va dire, en arrivant à la maison, c'est formidable, on a accepté ma publi. Ma publi. Je vois un sourire qui montre que on sait ce que ça veut dire. La publi. Des gens qui font des recherches font des publications et quand la publication est reconnue, pour eux, ça leur fait des points supplémentaires, si je pourrais dire, pour des gens comme nous, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Pour lui, il est franchement ravi. Ce qu'il a écrit a été reconnu et il est ainsi reconnu. Et son épouse, juste à cette nouvelle, lui apprend en retour que leur fils va avoir son nom écrit dans un livre au bas de sa poésie. L'écrit a une grande valeur. Ce gamin en question a écrit sa petite poésie en anglais et la mère est aussi toute contente. Waouh, mon fils, il a écrit une poésie. Qui n'a pas écrit une poésie ? Qui n'a jamais écrit une poésie ? On a tous écrit quelque part un petit mot qu'on a conservé ou qu'on a laissé quelqu'un d'autre. L'écrit reste. Mais en réalité, aujourd'hui, de quoi se souvient-on le mieux ? est-ce de l'écrit ? Je me souviens encore d'une dame qui était, excusez-moi l'expression, jaune comme un coin. Elle avait un cancer du foie. Et là, elle m'a récité par cœur, malgré son âge avancé, elle m'a récité par cœur Jean chapitre 1. Qui connaît Jean chapitre 1 ? Je connais le début, au commencement était la parole, puis après, c'est fini, hein, basta, je suis passé à autre chose. Mais en fait, de quoi tu te souviens le mieux ? Toi qui es jeune, très jeune, qu'est-ce qui te revient le plus souvent ? De quoi tu te rappelles le mieux ? Alors moi, je vais te dire de quoi tu te rappelles le mieux. Certains événements qui t'ont marqué, certes, mais probablement ce que tu retiens le mieux, c'est les chants. Ben oui, c'est évident. On se souvient très bien des chants, des mélodies d'abord, et puis, dans certains cas, on se souvient aussi des paroles de certains chants. Des chants qu'on chante le dimanche matin, mais des chants aussi qu'on écoute à la radio, qu'on voit à la télé, etc. Ce qu'on voit aussi à la télévision marque encore plus nos esprits parce qu'il y a des images qui sont associées. Et on est arrivé aujourd'hui, et là je vais peut-être vous annoncer un scoop, on est arrivé aujourd'hui dans une société où il y a plein de questions qui se posent, qu'on ne s'est peut-être pas posées jusque-là. Pendant très longtemps, on a dit que ce qui était important, c'est que le peuple devait savoir lire, et on a passé beaucoup de temps à apprendre à lire. Et il y a pas mal aujourd'hui de gens qui passent leur temps à apprendre à lire et à écrire à des jeunes, mais aussi à des adultes, parce que nous avons conscience que l'écrit est quelque chose de terriblement important. Il y a encore dans notre société française des gens qui ont du mal de lire, voire qui ne savent pas lire et qui sont perdus, parce que notre société est une société qui est basée sur la lecture. Mais on est en train de passer vers une autre étape. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, les jeunes non plus, mais elle va s'en souvenir, je suis sûr, d'ici quelques années. On passe à une autre société, une autre culture, qui est maintenant une culture post-lettrée. Ça veut dire quoi, post-lettrée ?
Qui ne savent pas lire.
Pardon ?
Qui ne savent pas lire.
Alors, qui ne savent pas lire, mais ça va peut-être même un peu plus loin. C'est des gens qui ont su lire, mais des gens qui n'ont plus besoin de la lecture pour pouvoir effectivement évoluer dans leur système. Où est-ce qu'on a vu cela ? On a vu ça en particulier au travers d'un ami avec lequel je suis en contact et qui travaille comme missionnaire à l'heure actuelle au Bénin. Et sa femme est là comme traductrice. Et il a dit, je ne sais pas si je dois continuer à traduire la Bible dans la langue du pays, parce que je ne sais pas si ça servira encore à quelque chose. Moi, ça m'a retourné parce que je me suis dit, je ne vois pas pourquoi la question se pose, parce que nous sommes une culture, nous avons une culture qui nous oblige à la lecture. Et il a dit, mais non. Ces gens là-bas qui n'ont pas appris à lire, ils arrivent à se nourrir intellectuellement, etc., sans avoir recours à la lecture. Et notamment avec l'arrivée des téléphones portables et des smartphones, ils ont accès à Internet avec un minimum de lecture, et ils apprennent beaucoup de choses au niveau notamment des vidéos, etc., etc., etc. On parle d'une culture post-lettrée. Chez nous, en France, ça arrivera plus tard, mais il est probablement certain qu'on y arrivera plus vite que ce qu'on le voudrait. Tu t'en souviendras quand tu auras mon âge. C'est pas une prophétie, c'est une réalité. D'accord ? Alors, on va revenir aux psaumes. Les psaumes, c'est très intéressant. Si vous fermez vos Bibles, vous voulez trouver où se trouvent les psaumes, vous cherchez au milieu de la Bible, et sauf si vous avez une Bible d'études où il y a plein de notes, mais faites voir le test. Ouvrez votre Bible au milieu, sur quoi vous allez tomber. Alors généralement, quand vous faites une démonstration, ça ne marche pas. T'es tombé où dans Ésaïe, c'est ça ? Proverbe, voilà. Physiquement, vous allez trouver les psaumes au milieu. Placé au centre de la Bible, ce livre va démarrer avec un grand enthousiasme sur ligne directrice vers le bonheur recherché par l'être humain. Premier psaume, commence par quoi ? J'ai un peu dur de la feuille à droite et j'entends pas grand-chose de l'autre. Heureux. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et voilà maintenant, le ton est donné avec ce psaume premier. Et puis, vous allez poursuivre dans les psaumes avec un programme de vie relativement important. Psaume 2, qui va lui emboîter le pas, avec un psaume qui est dit un psaume messianique. C'est quoi un psaume messianique ?
Prophétique. Prophétique.
Prophétique, mais qui annonce le Christ.
Oui, le Messie.
Il va parler du Messie. Et il y a plusieurs psaumes qui sont dits des psaumes messianiques, comme certains autres passages que vous allez trouver directement dans Ésaïe, qui sont dits aussi messianiques. On dira de même, les psaumes messianiques, on les dira en particulier pour certains des psaumes que vous allez voir apparaître là, qui sont donc le psaume 8, le psaume 16, 22, 23, 24, 40, 41... et toute la liste que vous avez sous les yeux jusqu'au psaume 118. Bon nombre donc qui sont là pour parler de l'arrivée de ce Messie. C'est sûr qu'il n'est pas marqué Messie à l'intérieur, mais avec le recul qu'on en a, il paraît assez clair qu'ils vont dans ce sens-là. La question qui se pose, c'est déjà de savoir comment les contemporains de Jésus n'ont pas pu reconnaître Jésus au travers de ces psaumes. Comment sont-ils restés bloqués? Pourquoi sont-ils restés aveuglés? Est-ce que, comme nous, ils étaient trop cartésiens et ils n'arrivaient pas à assimiler cela à l'intérieur de leur concept? Ou est-ce que, tout simplement, les enseignants, les docteurs, les chefs l'ont fait disparaître cette notion de messianique parce que, pour eux, ça ne pouvait pas être concevable? Ça ne pouvait pas être concevable. Pourtant, c'est bien ce qui est mentionné notamment dans tous ces psaumes. Ce livre des psaumes, il sera bouclé avec un encouragement presque exalté à la louange envers Dieu, pour ce qu'il est. Et cette louange sera portée par un groupe musical. Merci au groupe musical. Un groupe musical qui sera bien constitué. Alors le nôtre de ce matin, il n'était pas assez bien constitué. C'est quoi qui est mentionné dans le psaume, le dernier psaume, psaume 150? Quels étaient les instruments utilisés?
Il y en a beaucoup plus.
Il y en a beaucoup plus. Cymbales sonores et retentissantes, instruments à cordes, trompettes, luttes, harpes, etc. C'est tout cela qu'ils utilisaient pour pouvoir chanter les psaumes. Joël Proin, ou Proin, je ne sais pas comment on dit, va dire des psaumes, le livre des psaumes, et le livre des superlatifs. C'est le livre le plus long du canon inspiré, avec le plus grand nombre de chapitres, avec le chapitre le plus long, lequel ?
Le chapitre le plus long.
119. Avec le chapitre le plus court, lequel ?
117.
117, merci. Ah, tu parles plus fort, ça me réjouit. Très bien. Le psaume 117 est le livre le plus court de la Bible. C'est le livre qui contient le verset physique central de la Bible. Vous savez quel est le verset central de la Bible? Est-ce qu'il dit? Ça, c'est un ordinateur qui a calculé ça. Et ça m'a fait du bien que l'ordinateur trouve quelque chose d'aussi génial. C'est le psaume 118, verset 8 ou 7, ça dépend des traductions. Et ce verset dit, retenez bien le verset central de la Bible, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Étonnant, hein ? Le verset physique central de la Bible est vraiment le centre de la Bible, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le livre auquel le plus d'auteurs ont contribué, c'est le livre le plus varié. On ne peut pas oublier ce point qui est mis en jaune tout en bas. Mais la question est, une autre question va être, telle que décrit après, qui a donc écrit ces psaumes? Qui a écrit ces psaumes? Allez, des noms. Ah non, vous n'êtes pas déjà endormis. Ou alors je suis complètement sourd et il y a quelqu'un qui l'a dit, je l'ai pas entendu.
Il y a Florine qui l'a dit derrière moi, mais elle n'a pas osé le dire très fort.
Vas-y, vas-y, ose.
David.
David, merci. David, et qui ?
Azaf,
merci. Bon, je vais vous surprendre, ça me fait plaisir. Je pensais qu'on connaissait tous, mais il a été, ce livre a été, ou ces livres, mais je dirais ce livre, il a été écrit entre le 15e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il n'a pas été écrit d'un seul coup. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce livre de 150 psaumes et de 2461 versets contient près de la moitié de ceux-ci qui ont été écrits par le roi David. 73 ont été écrits par le roi David. Ainsi, beaucoup de psaumes vont faire référence à des éléments de la vie courante du roi David. D'où le psaume 13, 18, 23, 32, 34, 51, 52, 57, etc. Et on sait très bien que quand David chantait, il chantait ses psaumes. Il a composé de ses psaumes quand il gardait les moutons de son père. D'autres personnes lui ont reproché de pouvoir chanter en dansant, notamment quand il ramenait l'arche de l'Éternel. Et certains, une de ses femmes, n'était franchement pas très contente quand il s'était lancé dans ce genre de choses. Il a composé des psaumes quand il était roi. Ne serait-ce que le psaume 51, quand il avait péché avec Bathsheba. Le psaume 51, qui est un psaume de repentance, qui est relativement fort. Mais, qui savait qu'un des psaumes était écrit par Moïse? Vous saviez ça? On l'a souvent oublié. Ah, tu le savais aussi? Ben, fallait le dire. Pourquoi t'as pas osé? Certains ont été écrits, donc un a été écrit par Moïse, le psaume 90, d'autres par Salomon, le 72, Asaph, Ethan, etc. Mais quel est le contenu de ces psaumes? Allez, on y va pour le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout ça. C'est ça qui nous étonne. Dans une église en particulier où je vais prêcher de temps en temps, j'entends souvent cette expression. On a commencé le culte, on a fait un certain nombre de choses, on a vécu un certain nombre de choses, et puis tout d'un coup, le cher frère s'arrête et il dit « On va avoir un moment de louange ». Et c'est quoi un moment de louange? Oui, t'es comme moi, t'es aussi gêné, on va louer le Seigneur. Ouais, d'accord. Mais le culte est là pour louer le Seigneur. Le message aussi. Enfin, j'espère au moins. Mais pour lui, ça veut dire qu'on va avoir une tirade de chants, une dizaine, une douzaine, sans obligatoirement avoir un lien les uns avec les autres. Et le moment de louange, c'est ça. Pour lui, pour eux. Est-ce que le moment de louange, c'est vraiment ça? Les psaumes expriment la louange. Et dans ces psaumes, vous allez trouver tout cela. Reconnaissance, pardon, prophétie, amour, vie courante. Toutes ces choses. Et donc, nous pouvons déduire, pas seulement avec cela, que la louange ne va pas s'arrêter au chant, mais qu'elle va être des moments de prière, en parole, des moments de silence. Vous savez, dans les psaumes, plusieurs fois, il est écrit « pause ». Et chaque fois que je lis un psaume où c'est marqué « pause », je me dis « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Je dis « pause », ou alors je m'arrête, et je m'arrête combien de temps? La minute de silence? Ben, ça pose toujours la question. C'est quoi « pause » Ça veut dire qu'ils avaient des moments pour réfléchir sur ce qu'ils avaient lu, ou dit, ou chanté. Des moments de lecture de la parole, et notamment le psaume le plus long restera un encouragement à s'attacher à la parole de Dieu. Le psaume 119 est des fois difficile à lire parce que c'est répétitif. Il ne met pas toujours les mêmes mots pour dire la même chose. Et quand vous avez ça pendant plus de 100 versets, c'est vrai que c'est pas très drôle. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans les psaumes? Vous allez découvrir de l'enseignement théologique et doctrinal. Il y a toujours une question qui se pose chez nous, dans l'église à Villers. La question, faut-il continuer à chanter les vieux chants ou faut-il se permettre de chanter des nouveaux chants jusque dans le numéro 974? Parce que vous savez, les nouveaux chants, c'est hyper répétitif, hein? Alléluia, 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 alléluia. Et il passe à la strophe suivante, alléluia, alléluia, alléluia. Ça plane pas, hein? On se croirait effectivement en Guadeloupe ou en Martinique. Ou alors on répète sans cesse toujours la même chose, et puis sur un rythme bien soutenu, et puis on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment une louange à Dieu? Est-ce que seulement ce sont les vieux chants qui étaient tellement bien parce qu'au moins à l'intérieur il y avait du contenu? Alors je me suis amusé, entre guillemets, dimanche dernier à l'église à Villers, quand j'assurais la présidence, on a chanté un nouveau chant. Seigneur, je te donne tout. Et une fois qu'on avait fini de chanter, je dis alors, vous en pensez quoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce chant-là? Je te donne tout. Vous êtes prêts à tout donner? Tout? Tout, vraiment tout? Porte-monnaie, portefeuille, porte-sentiment, mon boulot, ton temps, tout, tout, ta télé, ta maison, ta famille. Je dois être prêt à tout donner, à tout lâcher. Hein? Comme cette jeune femme qui a décidé de pouvoir partir en mission, qui va partir en Tunisie, et qui était là en pleurs, parce qu'elle venait de faire un acte très difficile pour elle, ce que je peux comprendre. Elle m'a dit, je dois partir, et pour partir, je dois tout laisser. Je dis, ouais, d'accord, de toute façon tu le savais. Oui, mais je dois tout laisser. Tu sais ce qui était en bas dans l'église? Je vais aller le vendre. Bon, j'aurai rien, quelques euros, mais ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Et j'ai du mal à le laisser. C'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Bon, c'était une étagère très basique. Très très basique. Je vous dirai pas ce que j'en aurais fait, mais il y a tout le sentiment qui est attaché derrière. Tu sais ce que j'ai fait aussi l'autre jour? J'ai dû balancer toutes mes photos de famille. Toutes mes photos de famille. Je ne peux pas les emmener. Qu'est-ce que j'en ferai là-bas? C'est lourd, c'est encombrant, mais c'est toutes mes photos de famille. Oui, comme dans les psaumes, il y a à l'intérieur de la théologie, de la doctrine. D'où la question, si jamais j'étais privé de Bible, aujourd'hui, qu'est-ce qui me resterait? De quoi je me souviendrais? Qu'est-ce que je ferais pour me souvenir de la parole de Dieu? Aujourd'hui, on a une Bible entre les mains? Non, on a plein de Bibles entre les mains. J'ai regardé là sur mon iPhone, il m'a dit qu'il y avait 1080 versions, je crois. Pas en français, hein. J'ai pas besoin de tout ça, parce que je parle pas ni l'espagnol ni l'alsacien, même si je les aime beaucoup. Mais on a tout ça, puis on les lit même pas. Si j'étais privé de Bible, de quoi est-ce que je me souviendrais? De quoi est-ce que tu te souviendrais? Bon, ça y est, elle ne viendra plus la prochaine fois, quand elle saura que c'est moi, parce qu'elle va dire, ils vont encore me poser des questions. C'est vrai, très honnêtement, réfléchissons une seconde. Qu'est-ce qui me resterait? Je pense qu'une des choses qui me resterait probablement le plus facilement, c'est un certain nombre de chants. Dès que j'aurai la mélodie qui reviendrait, j'aurai les paroles qui reviendraient. Paroles auxquelles, probablement, je m'accrocherai. Et c'est là que je me souviens de ce moment particulier où Paul chantait dans la prison et ses colocataires, entre guillemets, étaient émerveillés. Pourquoi ils étaient émerveillés? Parce qu'ils chantaient bien. C'était un soliste bien connu. Parce qu'ils chantaient, je pense probablement que si les autres étaient émerveillés, c'est à cause des paroles qu'il y avait dans les chants que Paul pouvait chanter à l'intérieur de la prison. Et c'est pourquoi on a compris après que plusieurs se sont convertis au travers des chants que Paul pouvait chanter. De quoi je me souviendrai? De la prophétie. Jésus va confirmer, notamment dans Luc 24, verset 44, Jésus va confirmer que les psaumes parlaient déjà de lui. Et ça, c'est de la prophétie, comme on l'a partagé tout à l'heure. Ce passage de Luc 24, verset 44 dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, donc comprenez dans la Torah, donc les cinq premiers livres de la Bible, dans les prophètes et dans les psaumes. » Avant même que Jésus reparle d'Ésaïe 53, qui a été écrit 8 siècles avant Jésus, Comme dans Michée, les psaumes parlaient ouvertement du Messie. Je pense que nous, quand nous chantons aussi nos convictions, notre espérance. Nous chantons le retour du Seigneur. Nous chantons notre certitude d'aller au ciel, même avec le 974. Vrai ou faux ? Là, tous, à la fin, ils ont recherché le 974 pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un des derniers chants qui avait été inscrit à l'intérieur du Gémeaux 3. Ces psaumes contiennent de la prière, de l'exhortation. Je prends juste pour exemple le psaume 42, qui dit au verset 12, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Ou alors le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. » Je le délivrerai et tu me glorifieras. Peut-être que le jour où je serai sans Bible, je serai content de me souvenir de ce verset. Invoque-moi au jour de la détresse, je te le délivrerai et tu me glorifieras. Et puis les psaumes, c'est quand même des prières. Des prières sous toutes ses formes. De l'exaltation, de joie, des pleurs, des demandes spécifiques, etc., etc. Mais, et voilà le nœud de ma question ce matin. Ah, il n'a pas envie.
Le nœud est trop fort.
Ouais, le nœud est... Tu veux appuyer ça ? Ah, ben voilà. Voilà qui se réveille. Hop. Merci beaucoup. Eh oui. Chaque fois que je demande à quelqu'un de lire un psaume dans l'église, alors il va lire le psaume jusqu'au verset machin. Et il s'arrête. C'est vrai, il y a des fois des psaumes. Oh, j'ai fait pareil aussi. Ouais, ouais, vous vouliez savoir si je faisais pareil. Oui, je fais pareil. Je vais lire le psaume là dimanche matin. Et puis j'arrive jusqu'au verset 12 et le verset 13. Oh non, non, je peux pas lire ce verset-là. Seigneur, fais mourir le méchant et qu'il disparaisse de la terre, etc. Waouh ! Encore moins dans une église mélonite. Enfin, on va quand même pas faire ça, non ? On est là pour la paix, on n'est pas là pour la guerre. Faut quand même pas exagérer. Et on arrive avec ces psaumes d'imprécation et je ne sais pas ce que je dois en faire. Je vais m'appuyer sur une réflexion d'Alfred Kuhn pour reparler de ces fameux psaumes qui sont dits des psaumes d'imprécation. Certains psaumes sont très encourageants, pleins d'amour, d'exhortation à la joie, à la paix, mettent Dieu, ce Père Céleste, en avant avec tant de qualité. Puis, sans vous y attendre, au beau milieu, le psalmiste va demander à Dieu de tuer un tel et un tel mes ennemis maudits. Déjà parler d'ennemis, ça fait déjà froid dans le dos. Là donc j'arrête la lecture parce que ça ne correspond plus du tout à l'image que je me faisais des psaumes. Et Alfred Kuhn écrira « Des imprécations isolées se trouvent dans beaucoup de psaumes et dans certains d'entre eux, notamment le psaume 55, 59, 69, 79, 109 et 137. L'imprécation constitue l'élément essentiel dans ces psaumes. Le psalmiste demande à Dieu de châtier le méchant conformément à ce qu'il mérite. » Si notre sens du bien ou du mal est notre critère pour déterminer si un passage est inspiré ou non, il y a de fortes chances que nous rejetions ces passages, les considérant comme non inspirés par l'Esprit de Dieu. La problématique est la suivante. Y a-t-il un esprit de vengeance au travers de ces psaumes ? Y a-t-il un esprit de vengeance ? On va donner plusieurs éléments de réponse, et ce sont des éléments de réponse. 1. Affirmer que ces psaumes font partie de la parole de Dieu, de la parole inspirée de Dieu, est une condition préliminaire, indispensable, à une compréhension correcte de ces paroles. Avant de nous lancer dans la discussion, nous devons réaffirmer notre confiance dans la parole de Dieu, nous déclarer d'accord avec ce qu'a dit Jésus-Christ, reconnaître que David a parlé et écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, on le reverra dans les passages du Nouveau Testament comme Matthieu 22, 43, Marc 12, 36, Acte 1, 16, jusqu'à Hébreux 4, verset 7. D'abord, en lisant ces psaumes, il nous faut donc dire qu'ils font partie de la parole inspirée de Dieu. Et s'ils ont été mis à l'intérieur, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Sinon, il les aurait éliminés. Nous devons d'abord reconnaître qu'ils sont inspirés de Dieu, qu'ils ont été inspirés par l'Esprit et qu'ils ont une valeur d'avoir été mis là. Cela va donc exiger de nous une grande humilité et un renoncement à notre propre jugement comme autorité suprême et de confiance dans la parole de Dieu, même si nous ne la comprenons pas. Alfred Kuhn fera aussi appel au sens de la justice. Les psaumes imprécatoires sont une prière pour que la justice soit faite et que les exigences du droit soient respectées. Bien des appels à la vengeance sont des cris arrachés à des cœurs souffrants qui demandent à Dieu de faire justice et de rétablir le droit. Pour que la justice de Dieu s'accomplisse, il faut que le mal soit condamné. Et il dira un peu plus tard, « Le péché n'est ni toléré ni ignoré. Il ne fait l'objet d'aucun compromis. De cette façon, l'attitude impitoyable des psalmistes est plus proche d'un des aspects de la vérité que bien des attitudes de nos contemporains qui peuvent être prises à tort par ceux qui les adoptent pour de la charité chrétienne. Les passages féroces dans les psaumes servent à nous rappeler que la méchanceté existe réellement dans le monde et qu'elle, sinon ses auteurs, est détestable aux yeux de Dieu. L'injustice émeut et provoque de l'indignation. Si ce n'est plus le cas, le mal est banalisé et accepté. » D'accord ou pas d'accord? Malheureusement, aujourd'hui, nous avons banalisé le mal. Et notre société française actuelle ne va que dans ce sens-là. Le mal n'existe plus, puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est là où on en est aujourd'hui. Deuxième chose. Le réalisme de la Bible. Ah, quand même. Il était en train de désobéir. Il faut quand même qu'il arrête hein, de désobéir. Non, je parle de mon ordinateur.
Oui, j'ai bien compris, mais c'est du Mac.
Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, je sais pourquoi. Ça ira mieux comme ça. Oh, ben, voilà. Élément suivant. Le royaume de Dieu ne pourra s'établir qu'après la destruction du royaume de Satan. Délivre-nous du mal implique aussi délivre-nous de ceux qui font le mal, de ceux qui s'identifient à la cause de Satan. De même, nous prions avec joie pour le retour de Christ sans nous arrêter un seul moment sur la seule pensée que nous prions en même temps pour que les événements de 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 9 s'accomplissent. Et si ces événements vont s'accomplir, ça veut dire qu'il y aura destruction du méchant. Si nous sommes choqués par ces imprécations, cela peut provenir non pas tant de notre sensibilité chrétienne que d'un manque général d'expérience de la persécution et de notre incapacité à épouser la cause des chrétiens persécutés. Le psaume 83, versets 3 et 4, dit « Voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. » Cette situation n'a pas changé. Partout dans le monde, on entend parler des attaques extérieures et intérieures contre l'Église. Dans le Deutéronome, Dieu a prononcé des malédictions sur les membres de son propre peuple. À plus forte raison, maudira-t-il ceux qui s'opposent à lui. Jésus a aussi prié les psaumes. Quand Jésus était au temple, il a repris ces psaumes-là. Il ne les a pas enlevés. Et s'il ne les a pas enlevés dans ses chants, dans ses prières, c'est qu'elles avaient de la valeur. Il y a des passages des psaumes que nous ne pouvons pas reprendre pleinement à notre compte. Par exemple, des affirmations comme celle du psaume 18. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » C'est vrai ça? Tu peux dire ça ce matin? « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » T'as le droit, hein? Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Bon, on commence à rougir là. Mais non, c'est vrai, Seigneur, j'en suis pas là. Car j'ai observé les lois de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre ton iniquité. Il n'y a qu'un seul qui pouvait dire ça avec vérité. C'est Christ. Mais est-ce que Christ pouvait chanter de la même manière un autre psaume comme le psaume 51 ? J'ai péché contre toi, etc. Et Alfred Kuhn dira, oui, mais lui c'est dans un autre sens. Il les a priés parce qu'il savait qu'il allait se charger de nos péchés, s'appropriant nos dettes. Psaume d'imprécation, qu'est-ce que je peux dire pour ma vie aujourd'hui? On parle là de Satan et son armée. Et c'est de cela dont je dois absolument jamais oublier. C'est que quand le psalmiste s'est exprimé par rapport à ses ennemis, est-ce que moi je fais la même chose par rapport au péché et par rapport à Satan? Est-ce que jamais vous avez prié pour que Satan puisse être réellement détruit comme le Seigneur le voudrait, puisque c'est ce que le Seigneur va aussi mettre en place. Quand le psaume 83, versets 16 et 17 dit « Poursuis-les ainsi de ta tempête, fais-les trembler par ton ouragan, couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. » Est-ce que nous ne sommes pas non plus à prier, ne sommes pas appelés à pouvoir prier? Prier pour chasser le péché, pour chasser l'ennemi loin de nous. Mais aussi pour une autre chose, pour ceux effectivement qui ne marchent pas selon Dieu, afin qu'ils se convertissent. Alors je vais terminer avec cela, en disant une chose. Les psaumes me réapprennent à m'humilier devant mon Père et à revoir en lui le parfait devant lequel je dois un total respect. Je ne comprends pas, Seigneur, mais tu as raison. Tu es le souverain et tu as toujours raison. Permets que mon cœur te loue et t'adore chaque jour, en attendant ton retour aussi certain que ta première venue. On va prier. Seigneur, c'est ta parole. C'est elle que tu as choisie. Le moyen, le vecteur de communication pour parler à nos cœurs. C'est d'elle dont tu veux te servir pour pouvoir transformer notre manière de vivre, de parler, de prier, de chanter. Ces psaumes sont là pour notre instruction. Ces psaumes, Seigneur, sont là pour nous aider à mieux te connaître et mieux te vivre. Enseigne-nous au travers de ces psaumes. Aide-nous, Seigneur, au travers de leur lecture, à comprendre comment toi tu vois les choses et à comprendre comment tu veux que nous puissions grandir avec toi. Seigneur, merci de nous rappeler toutes ces choses pour notre bien. Amen.